à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 18h sur Radio Aviva.
Radio Aviva, le flash local.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 19 avril, sur les routes, c'est du propre. Jeudi prochain, l'Hérault organise la 7e édition de l'opération massive de ramassage des déchets sur les routes et les pistes cyclables. Invités à se mobiliser le temps d'une matinée, les agents départementaux seront déployés aux quatre coins de l'Hérault pour rendre les routes plus belles. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la semaine départementale de ramassage et de tri des déchets qui commence aujourd'hui. Signalons que chaque année, lors de cette opération, c'est l'équivalent de 2 bus et demi remplis de déchets qui sont collectés. S'ils ne l'étaient pas, ils pourraient finir par polluer nos rivières, nos lagunes et nos plages. Un nouveau terrain de jeu. Lundi commencent les travaux pour la création d'une nouvelle aire de jeu sur la place Gabriel Péri. En effet, en avril dernier, à la demande du maire et par mesure de précaution, l'ancienne aire de jeu avait été fermée puis démontée. Il est vrai que malgré un entretien régulier, les structures vieillissantes avaient besoin d'être remplacées. Précisons que la municipalité a travaillé à la réalisation de cette nouvelle aire en concertation avec le comité habitant et les résidents ayant souhaité prendre part à la démarche. Le temps des travaux est estimé à 3 mois. La traduction a un prix. Depuis lundi dernier, l'appel à candidature est ouvert pour les prix de traduction du Pen Club français, décerné annuellement à 4 livres parus dans les 12 derniers mois et traduits en langue française, quelle que soit la langue d'origine ou la date de parution des ouvrages, les rééditions n'étant pas prises en compte. 4 catégories sont récompensées, la poésie, l'essai, le théâtre et enfin celle regroupant romans, récits et nouvelles. Une seule traduction peut être présentée par traducteur ou traductrice. L'appel à candidature prend fin le 1er juin prochain. La publication de la sélection définitive se déroulera quant à elle en automne. Plus d'informations sur le site du Pen Club français. Les suffragettes à l'honneur. Le 21 avril 1944, la France est devenue le 59e pays à accorder le droit de vote aux femmes. Et ce dimanche marquera le 80e anniversaire de l'événement. Pour rappel, le suffrage avait beau avoir été déclaré universel en 1848, il ne le fut que pour moitié pendant presque 100 ans. Et ce n'est que le 21 avril 1944, jour où le général de Gaulle a signé l'ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération, que les femmes sont devenues électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes, ainsi que le stipule l'article 17. Cette mesure constitue l'aboutissement d'un long combat pour les droits civiques des femmes en France. Une date qui marque l'histoire de notre République est celle de la lutte pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est la fin de ce Flash Info du vendredi 19 avril. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt sur Radio Aviva.
La météo dans les Hauts.
Bonsoir à tous. Ce soir, le ciel est sous le signe du beau temps sur tout le département. Les températures descendront à 14 degrés en moyenne en soirée, jusqu'à 9 degrés durant la nuit à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Demain, jeudi, le temps sera ensoleillé. Il fera 10 degrés à Agde le matin et 12 à 7 l'après-midi. Je vous souhaite de passer un très bon moment et une belle soirée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Je vais parfois à contresens. De temps en temps, j'ai des flèches plantées au cœur, de la peine, de la rancœur. De temps en temps, je ris de rien. Je fais le con parce que j'aime bien. De temps en temps, j'avance en ayant peur. Je suis le fil de mes erreurs. Et très souvent, je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais le rêve d'aller plus loin. Je me bouscule. qu'on peut avoir dans notre enfance. De temps en temps, je veux la paix. Pour moi, je n'ai plus de respect. Et très souvent, je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Du crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps, je pense à toi. Sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te
Tempo. Cette semaine, je vous propose trois événements. Vendredi 16 avril, de minuit à 6h du mat, le PZ City Club reçoit YouMake. Il sera accompagné de Cyril M en room 1 et Cave en room 2. Entrée 15€. Le PZ City Club, c'est 4 quais du Verdançon en Montpellier. Samedi 20 avril, de minuit à 5h, à l'Antirouille, In the Wood, avec Griff et Charbonnier, Théo Léo et La Marmaille. Entrée 10€. L'Antirouille, c'est 12 rue Anatole France à Montpellier. Dimanche 21 avril, de 19h à 23h, au Rockstore, My Life is a Week présente Club Sandwich, avec Kink et Dylan en mode Boiler Room. Entrée 20€. Le Rockstore, c'est 20 rue de Verdun à Montpellier. Voilà, Tempo, c'est terminé. Je vous souhaite de bonnes sorties sur vos spots préférés.
Tempo,
l'actualité de vos sorties nocturnes
à Montpellier et dans les rues.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And both know I'm not what you need.
l'agenda, toutes les sorties et les loisirs dans l'Hérault.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements et les sorties à venir. Le festival Al-Andalus est de retour depuis le 15 et jusqu'au 27 avril pour sa 8e édition à Montpellier. Un très beau programme pour cet événement dédié au monde andalou, entre concerts, expositions et différents ateliers, il y en a pour tous les goûts. Concernant les tarifs, le festival propose des événements payants et d'autres totalement gratuits. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page internet du festival. Les 23 et 24 avril aura lieu la seconde édition du Salon Cybersécurité du Citoyen, des collectivités et des entreprises. Découvrez ce premier événement français qui place le citoyen au cœur de la cybersécurité. Le salon aura lieu au Palais des Congrès à la Grande Motte. Le tarif d'entrée varie entre 1 et 4 euros. Le salon Transitions Invest est destiné aux professionnels afin de rapprocher les entreprises des différentes solutions de financement. Il revient le 23 avril au FDI Stadium à Montpellier pour sa 3e édition. Cet événement donnera notamment lieu à des échanges entre investisseurs et dirigeants d'entreprises dans le but de favoriser l'accélération de leur développement et de leur transition. Pour s'inscrire et participer à l'événement ou tout simplement pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'événement. 3 jours pour transmettre. Du 23 au 25 avril, les notaires se mobilisent pour répondre aux questions du grand public sur la transmission. Préparer sa transmission est un essentiel pour s'assurer que ses volontés soient respectées, mais beaucoup de questions peuvent persister sur le sujet. Au programme, des événements gratuits, en ligne et en présentiel, des conseils vidéo et un jeu concours. Pour pouvoir suivre cet événement et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du Conseil Régional des Notaires. Toute la vérité. Les 23, 24 et 25 avril, retrouvez cette nouvelle pièce au Théâtre des 13 Vents à Montpellier. Une création collective mise en scène par Adrien Béal. La pièce est basée sur 5 gestes, arrivant sans prévenir dans une situation familiale, 5 gestes liés de près ou de loin à la sexualité. Des gestes engageant les 5 sens, des gestes qui dérangent les rapports tels qu'ils sont socialement établis, mais sans l'ombre d'une provocation. Entrée libre dans la limite des places disponibles, donc n'oubliez pas de réserver votre place. C'est tout pour cet agenda. À bientôt sur Radio Aviva.
Burnt lips when the wind blows. Black tint on the windows. I can't see what the future holds, but I wanna know. I tiptoe on the dirt road. Too hot for the devil. I can't see what the future holds.
à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions Bêtes. Je suis en compagnie du docteur Joachim Lopez de Lima. Bonjour Joachim.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes vétérinaire à la clinique Saint-Hubert à Latte. Aujourd'hui, Joachim, nous allons parler de la teigne chez le chat. Quelle teigne, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire cette teigne? Qu'est-ce que c'est la teigne?
Alors, on parle aussi de la teigne des humains. Hein. La teigne qui était une maladie, surtout du cuir chevelu. Il faut savoir qu'en fait, il s'agit d'une mycose d'un champignon, ou plus exactement, ce qu'on appelle un dermatophyte. Alors, pourquoi chez le chat? Parce que le chat est un vecteur assez courant chez nos carnivores domestiques, mais il faut savoir que tous les mammifères peuvent avoir effectivement ce type de champignon. Alors, il s'agit d'un champignon qu'on appelle Microsporum ou Trichophyton. Donc, ce sont des champignons dits microscopiques. Évidemment, on ne les voit pas. Et la contagiosité est extrêmement forte.
Donc, c'est la teigne du cuir chevelu du chat, on peut dire ça comme ça. À quoi ça ressemble sur le chat? Comment on peut définir que c'est de la teigne, que mon chat a la teigne?
Alors, la teigne, en fait, c'est une maladie qui crée une perte de ce qu'on appelle une dépilation, une perte de poils chez l'animal. Alors, c'est une perte de poils qui est assez caractéristique puisqu'elle est dite numulaire, elle est en forme de pièce de monnaie. Donc, on a l'animal qui est en fait moucheté de dépilation. Et une particularité, c'est que bien souvent, ça ne gratte pas. C'est pas une maladie qui donne du prurit, comme on appelle du prurit, et donc c'est courant sur les oreilles, sur le visage, et ça peut également se contaminer à d'autres espèces. Et bien évidemment, le plus proche compagnon, c'est l'humain, et on appelle cela un herpès circiné, bien que ça n'a rien à voir avec un herpès. Chez les humains, ça donne des espèces de lésions rondes également, très inflammatoires, et qui pour le coup, chez nous, gratte beaucoup.
Effectivement, c'est très contagieux. Est-ce que l'animal souffre quand il a la teigne? Est-ce que par exemple, il peut avoir d'autres symptômes, de la fièvre, des frissons?
En principe, non, sauf une vraie complication sur un animal qui serait en mauvaise santé. En principe, non.
Qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'aperçoit que son chien ou son chat, parce que je suppose que tous les animaux de compagnie sont concernés, comme vous l'aviez dit, le premier réflexe à avoir, faut-il laver par exemple son animal?
Alors le premier réflexe, c'est de se rendre chez son vétérinaire pour déjà faire le diagnostic. Le diagnostic qui repose sur les lésions, effectivement, mais il y a des lésions qui ne sont pas toujours très nettes, et à ce moment-là, ça nécessite de faire ce qu'on appelle un raclage, où on gratte un peu les poils, on va observer sous microscope. Dans certains cas, il y a aussi un test qui est efficace dans plus de 50% des cas, c'est le test dit à la lumière de Wood. C'est une lumière ultraviolette, donc on place l'animal dans une chambre noire, on y place une lumière ultraviolette, un peu comme les lumières de discothèque, et à ce moment-là, les poils qui sont contaminés sont fluorescents. Et c'est cette fluorescence qui va montrer qu'on a bien affaire à une des types de teigne qui est la plus fréquente, c'est Microsporum canis, qui est en général la forme classique. Après, dans certains cas, on a aussi des animaux qui sont asymptomatiques. Et ça, c'est quand même une particularité du chat, c'est que beaucoup de chats sont porteurs de ce fameux champignon, ce sont des petites spores, hein, c'est des petites granules microscopiques, comme des grains de pollen, on va dire. Et on ne peut pas les dépister avec les tests classiques. Et à ce moment-là, on fait une culture. On prend du poil, on le met en culture pendant quelques jours. Et on a des cultures qui font que le poil va créer un changement de couleur ou un mycélium bien particulier qu'on pourra observer au microscope. Alors pourquoi on fait cette culture? C'est dans des cas où, effectivement, on a un chat de la famille qui se porte parfaitement bien et la famille est contaminée et on veut savoir s'il est responsable ou non des lésions des membres de la famille.
Et à l'origine de la teigne, qu'est-ce qui se passe? Parce que le chat l'attrape bien de quelque part, ça vient d'où cette teigne?
Alors, la teigne, c'est cosmopolite, c'est-à-dire il y en a un peu partout. Il y en a facilement dans l'environnement. Donc, il peut y en avoir sur les tapis, sur les moquettes. Il peut y en avoir dans la terre. Il y en a sur de tas d'espèces. Et ça peut se véhiculer même par le courant d'air. Donc c'est très difficile, c'est un peu comme le Covid, c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc il y en a un peu partout, et effectivement, c'est les endroits les plus propices sont des endroits où il y a des fortes communautés d'animaux, dans les refuges, les SPA, et sur des animaux également plus ou moins sauvages, les chats un peu sauvages. Donc si votre petit minet va faire un tour et qu'il va fricoter avec un animal de la rue, il y aura donc contamination, il va lui-même contaminer votre environnement, et la boucle ne cesse de perdurer.
On la retrouve plutôt chez le chat que le chien, non ? Cette teigne ?
Effectivement, le chat a tendance à beaucoup plus se balader et c'est vraiment un porteur assez courant. Mais on en rencontre aussi chez les petits mammifères, notamment les cochons d'Inde, les souris, et c'est aussi avec ces animaux-là que les personnes assez fragiles, à la peau fine et fragile, donc les enfants qui vont être souvent contaminés parce que évidemment ils mettent l'animal dans les bras, au niveau de la poitrine, au niveau du cou pour faire le câlin, les spores se déversent et après ils vont s'en mettre sous les ongles, se gratouiller, et puis c'est comme ça qu'ils vont inoculer le champignon.
Et après on peut aller en boîte de nuit du coup pour vérifier que cette lumière violette, si on a attrapé la teigne.
C'est un bon test. Si en boîte de nuit vous voyez quelqu'un avec les cheveux fluorescents, fuyez.
comment on se débarrasse de cette teigne, parce que c'est très contagieux. Qu'est-ce que vous recommandez à nos auditeurs?
Très contagieux, donc très difficile de s'en débarrasser. Donc il faut déjà traiter l'individu, il y a des bains spéciaux, donc des bains qu'on utilise pendant tous les 3 jours, pendant au moins un mois, pour vraiment se débarrasser des spores qui sont sur les poils. On peut, dans certains cas, même sur certains animaux qui sont très velus, je dirais, raser l'animal pour être sûr qu'il ne dissémine pas le parasite. Très inesthétique, mais enfin, pourquoi pas. Et ensuite, il faut traiter l'environnement. Alors, traiter l'environnement, ça veut dire que faut savoir que vos tapis, vos moquettes, votre parquet est forcément rempli de spores et risque de vous recontaminer, même si l'animal a été traité. Donc, le meilleur ennemi, c'est l'aspirateur. Aspirer, bien aérer. On retrouve un peu des mesures de Covid, on va dire. Et dans certains cas, on utilise des espèces de fumigènes. Ce sont des bougies, plus exactement, qu'on fait brûler avec des vapeurs qui sont antifongiques.
Alors, je le rappelle aux auditeurs, mais on ne fait pas brûler la bougie directement sur l'animal. Hein.
Je le
précise. Et on évite aussi les huiles essentielles parce que l'animal ne les tolère pas bien, il me semble.
Alors, il y a des huiles essentielles, effectivement, qui peuvent, soi-disant, traiter certains champignons, mais à utiliser, il faut vraiment faire sortir l'animal parce qu'il est beaucoup plus sensible que nous à ces odeurs.
Juste pour finir, est-ce qu'il y a un âge chez l'animal où la teigne peut arriver? Parce qu'on dit, par exemple, que les puces arrivent plutôt chez les chiots ou chez les chatons.
Alors, en fait, oui et non. Surtout les individus fragiles, donc ce sont essentiellement les chatons en particulier. On a souvent de la teigne chez les chatons. Ça peut être au moment de période de stress, une femelle qui vient de mettre bas, par exemple, ou au cours d'une maladie, ou d'un stress, ou en post-hospitalisation, effectivement, ce seront les sujets les plus atteints.
Merci beaucoup, docteur Joachim Lopez de Lima, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes vétérinaire à la clinique Saint-Hubert à Latte. On se retrouve très vite dans une nouvelle émission Questions Bêtes.
Sur la route, entre Nîmes, Montpellier et Perpignan, Radio Aviva. Something flavor. Aventura.
Hello?
Solo escucha.
Son las 5 de la mañana.
En
tu belleza, en
loco
voy a parar.
Vení
AB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM, je vais adorer l'écouter en DAB+.
Radio Aviva, le Flash Info.
Bonsoir à tous. Une journée mouvementée dans le 16e arrondissement de Paris. Avec cette intervention des policiers de la BRI, en fin de matinée, un homme s'est retranché dans le consulat d'Iran et il proférait des menaces, Louis Crépeau.
Oui, des témoins disaient avoir aperçu une grenade ou un gilet explosif, faisant craindre le pire. Le suspect aurait ensuite mis des drapeaux sur le sol du consulat, disant vouloir venger la mort de son frère. Et c'est finalement en fin d'après-midi que ce Français d'origine iranienne est sorti de lui-même après des négociations avec la BRI. Il n'avait aucun explosif sur lui. Il s'agissait de fausses grenades. L'homme de 61 ans n'est pas un inconnu à de la justice puisqu'il a déjà été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir tenté de provoquer un incendie dans ce même consulat d'Iran en septembre dernier. Il devait passer lundi prochain devant la cour d'appel.
Et ce soir, le suspect est en garde à vue. Les précisions de la procureure de Dunkerque après la mort de Philippe, ce jeune homme de 22 ans tué suite à une violente agression en début de semaine. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été mis en examen. La qualification d'assassinat a été retenue. Déjà connu de la justice, ils reconnaissent l'agression et expliquent avoir fixé un rendez-vous à la victime via un site de rencontre en se faisant passer pour une jeune femme. Philippe est mort suite à plusieurs coups à la tête. Une marche blanche était organisée à Grande-Synthe ce matin pour lui rendre hommage. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne tout acte de représailles au Moyen-Orient après les explosions de ce matin en Iran, explosions dont on ne connaît toujours pas l'origine. L'armée israélienne n'a pas souhaité faire de commentaires. Fort Boyard va s'ouvrir au public, annonce du conseil départemental de la Charente-Maritime, qui compte ouvrir le monument maritime aux visites à partir de 2028. En attendant, le fort va devoir subir d'importants travaux de réfection. Et puis le foot, le début de la 30e journée de Ligue 1 ce soir en ouverture. Nice reçoit Lorient, coup d'envoi 21h. Voilà pour l'essentiel de l'info, passez une excellente soirée.
La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous. Ce soir, le ciel est sous le signe du beau temps sur tout le département. Les températures descendront à 14 degrés en moyenne en soirée, jusqu'à 9 degrés durant la nuit à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Demain, jeudi, le temps sera ensoleillé. Il fera 10 degrés à Agde le matin et 12 à 7 l'après-midi. Je vous souhaite de passer un très bon moment et une belle soirée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Conviction, engagement et valeurs les ont conduites à un parcours d'exception. Chaque semaine, découvrez deux femmes mises en lumière par le fil rouge du Midi Libre. Elles se livrent à Perla Danan au micro de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous. Alors nous retrouvons cette semaine les femmes du fil rouge du Midi Libre, Nathalie Bulcar-Grégoire, bonjour.
Bonjour.
Et elle est accompagnée de sa filleule, Béatrice Mortier, bonjour.
Bonjour.
Alors deux femmes du fil rouge, engagées dans la vie professionnelle, la vie privée on va le savoir tout à l'heure. Et donc Nathalie Bulcar-Grégoire, vous dites vous que en fait... Je revendique mon provincialisme, être dans la capitale, c'est très intéressant et instructif, mais travailler en province, c'est être au plus près de l'esprit entrepreneurial. Alors bravo. Là, vous êtes bluffée. Hein ?
Ah, je suis complètement bluffée. C'est remarquable. Je me souviens avoir dit ça. Je ne me souviens plus du contexte dans lequel je l'ai mis, effectivement. Mais oui, c'est tout à fait cela. Je suis une vraie provinciale et je suis fière de l'être. J'ai eu l'occasion de travailler dans mon parcours professionnel à un certain moment, justement, sur Paris. Et le constat que j'ai fait... Alors, c'est génial de bosser sur Paris parce que vous avez du business partout.
Ça bouge.
Ça bouge énormément. Ouais. Et puis, les opérations sont magnifiques. Mais avec le client, on n'a pas la même relation. Non. On n'inscrit pas dans la durée.
On perd un peu pied.
Oui.
On est un peu dans le moment présent, ça passe et ça, on passe à autre chose. Alors, donc on voit bien qu'au niveau déjà personnel, les relations humaines, ça compte.
C'est essentiel.
Vous en avez sûrement fait le terreau de votre activité. Alors, quelques mots sur vous. Vous avez 53 ans, diplômé d'une maîtrise de sciences éco et de gestion. Vous avez effectivement, vous êtes né à Lille, vous avez débuté une carrière un peu à travers la France, et puis, toujours en lien avec le marché des entreprises, hein, ça c'est une constante, on surveille où sont les courbes de marché. C'est ça ?
Alors, effectivement, je suis tombée dans la marmite, c'est ce qu'on appelle le marché de l'entreprise. Marché de l'entreprise,
c'est familial.
Non, pas du tout. Alors, c'est le marché de l'entreprise en banque, c'est vraiment être l'interlocuteur privilégié, d'être un chargé d'affaires auprès de cette clientèle que sont les entreprises, tout simplement.
Et donc, ça vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine ?
Alors, je pourrais en parler des heures de ce métier. Moi, je suis toujours admiratif des chefs d'entreprise. C'est d'abord des personnes qui sont audacieuses. On ne le dira jamais assez, c'est eux qui font tourner une économie. C'est eux les créateurs de valeur, c'est eux qui créent de l'emploi. Ils prennent du risque et ils le prennent en plus avec une forme, si vous me permettez, un peu aussi des fois d'inconscience. D'ailleurs, j'aime bien dire, bien heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Et pour le coup, je pense que pour être chef d'entreprise, il faut être un petit peu fêlé parce que c'est assumer beaucoup de risques. De pas forcément en avoir le retour, mais ce qui est certain, c'est que c'est justement cette audace qui les caractérise, qui leur permet de porter si loin justement leur conviction, leur capacité de création.
S'ils n'étaient pas un peu fêlés, comme vous le dites, ils auraient peur de toutes ces contraintes et de tous ces engagements et toutes ces responsabilités. Donc, ils auraient fait marche arrière. Donc, heureusement qu'on a des fêlés et qu'on espère en avoir beaucoup dans la région parce qu'on a besoin de développer l'économie. Vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, en charge du pôle banque de développement régional, mais ça n'était pas suffisant.
Non. J'ai plusieurs casquettes, effectivement, mais je vois que vous êtes très très bien renseignée.
Et donc, vous êtes aussi présidente du conseil d'administration d'une société anonyme de coordination, l'IASAC, habitant en région Occitanie,
Alors, c'est sur le logement social. Donc, oui. Effectivement, j'ai cette particularité de m'investir beaucoup sur le marché du logement social parce que c'est une conviction forte. Il faut pouvoir, je dirais, dans les besoins primaires de chaque individu, de chaque être humain, c'est d'avoir un toit, un foyer. Et pour le coup, oui, effectivement, c'est quelque chose, c'est un besoin essentiel et c'est là où on se retrouve, justement, avec Béatrice. Ce sujet de la construction qui est juste essentiel parce que c'est ce qui porte aussi une dynamique de territoire.
Bien sûr. C'est à la fois un outil de cohésion sociale.
Totalement. Vecteur essentiel de cohésion sociale.
C'est énorme. Aussi un outil d'épanouissement pour les gens, pour chacun, pour les familles. Et puis enfin, effectivement, c'est important dans une région d'avoir des gens qui sont bien et qui peuvent se dédier justement au développement de leur carrière ou de leur famille, selon le choix. Hein. Donc, est-ce que vous avez d'autres activités ?
Alors, d'autres activités, oui, j'en ai forcément à titre personnel. Heureusement, je fais pas mal de sport. C'est ce qui me permet aussi voilà, de me décharger et de me recharger par la même occasion.
On m'a dit dans un petit coin de l'oreille que vous aimez bien voyager.
Aussi, beaucoup. Absolument, c'est une grande passion, le voyage.
Donc, Nathalie Bulcarte, vous êtes... Bulcarte-Grégoire, vous êtes une femme occupée.
Oui, bien occupée. Bien occupée et heureuse de l'être.
Et avec des choses qui vous plaisent. Les auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez un très beau sourire et les yeux qui brillent. Donc ça, c'est tout à fait intéressant quand on parle de ce que nous faisons au quotidien. Merci. En tous les cas, vous êtes la marraine. Vous avez choisi de marrainer Béatrice Mortier. Béatrice Mortier, donc vous êtes vous directrice générale d'ICAT Promotion Montpellier. Donc on est à nouveau dans le logement, dans l'habitat. Quelle spécificité sur ICAD ? Il y a quand même un aspect social, sociétal, intéressant, important, que tous les auditeurs ne connaissent pas. Donc, vous êtes associée fondatrice d'Advitam, un promoteur immobilier, avec plusieurs rachats de... les sociétés immobilières se construisent par empilement, donc comme les sociétés pharmaceutiques d'ailleurs. Et j'aimerais que vous nous disiez un peu ce que vous faites à ICAD au quotidien. Directrice générale, régionale, c'est important. Qu'est-ce que vous avez pu insuffler là, de votre personnalité que je connais un peu, et qu'est-ce que vous avez pu insuffler ? Alors peut-être déjà un petit mot sur Icade. Effectivement, c'est un promoteur un peu particulier, oui. Parce qu'il est né de l'appel de l'abbé Pierre en 1954,
exactement.
Quand les Français avaient tellement de mal à se loger et ne serait-ce qu'à survivre. Donc c'est vraiment la Caisse des dépôts qui a créé Icade pour pouvoir loger, pour pouvoir créer des logements à une période où c'était absolument vital.
Donc on est à nouveau dans... fournir aux Français l'assise de base d'un épanouissement personnel,
le besoin primaire,
le besoin primaire.
Et à partir de là, effectivement, se sont développés plusieurs métiers qui sont des métiers toujours primaires, c'est-à-dire dans la santé, beaucoup, puisqu'on est une foncière de santé, donc on crée des hôpitaux, des maisons de santé, etc., des EHPAD, et puis après, de l'immobilier tertiaire, de commercial et autres. Et aussi, on travaille beaucoup avec les collectivités, donc on est vraiment un acteur du territoire.
Oui.
Et donc, par exemple, ici à Montpellier, on a pu faire la gare Sud de France ou Odysseum, qui sont des projets un petit peu d'envergure et un petit peu différents pour un promoteur.
Des projets importants, c'est rare d'avoir comme ça, créé des nouveaux, comme ça, un centre...
C'est rare et c'est révélateur, en fait, de la proximité avec le territoire et avec les acteurs du territoire, puisque effectivement, c'est des besoins structurants, des besoins très importants. Quand on prend l'exemple de la gare Sud de France, des besoins complexes à construire. Ouais. Et donc, voilà, c'est par l'alliance avec les collectivités et puis le partenariat, bien sûr, avec la SNCF, qu'on a pu monter ce genre de produit.
Donc vous êtes arrivé là, vous, avec un diplôme, de droit des affaires, droit fiscal, et puis, après des périples professionnels dans divers pays, vous vous installez à Montpellier en 2008. Alors, Montpellierenne d'adoption, heureuse de l'être ?
Ouais, Montpellierenne de cœur, maintenant, oui.
C'est fini.
Comme Nathalie, je pense que...
Nous avons deux Montpellierennes de cœur bien ancrées dans le territoire. Alors, les valeurs d'ICAD, c'est...
On a vu
qu'il y a une partie développement durable, il y a une partie... Donc, quelles sont, en quelques mots, les valeurs clés qui font de vous, justement, un promoteur différent ?
Je pense que déjà, on a des valeurs sociales extrêmement fortes, on les a évoquées, mais elles continuent à s'appliquer, puisqu'on est très, très différent dans le sens où on est très inclusif.
Oui.
Donc, on fait beaucoup de logements différenciants, donc pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées, mais différemment, c'est-à-dire des colocations, des choses qui nous permettent de continuer à être dans la vie, d'innover sur le plan social et puis, bien sûr, environnemental, puisque... On s'est inscrit dans une charte bas carbone et aujourd'hui on construit de plus en plus vers le zéro artificialisation nette et vers le zéro, le bas carbone au maximum.
Alors une démarche, là on le voit, de prévention et de protection de la planète, il y a aussi, vous avez, j'ai vu une démarche de plantation d'arbres, de plantation, de vraiment faire poser des actions qui reconstruisent notre planète.
Alors on a une vraie démarche sur la biodiversité. Oui. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un sujet notamment en ville. Et donc nous, on a créé une charte. Et notre charte, c'est un habitant, un arbre. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça nous permet de planter énormément et de recréer de la biodiversité en ville, là où on en manque cruellement.
Alors, on est proche de la première pause musicale. En un mot, c'est dur de vous dire ça, un immeuble, une œuvre, vous avez envie qu'il y ait dans les immeubles de l'art, un peu d'art à portée de la population.
On travaille beaucoup, depuis longtemps d'ailleurs, moi, à titre personnel, avec différents artistes, donc soit intégrés dans l'immeuble, soit avec l'architecte, soit effectivement des œuvres qu'on rapporte.
D'accord.
Et donc, on travaille récemment. J'étais au téléphone avec Franck Seller avant d'arriver, puisqu'il nous fait des œuvres dans nos bâtiments.
Il est très doué.
Très doué et très
charmant, c'est un ami. Donc, ok, merci Béatrice Mortier. Hein, donc, je rappelle que vous êtes la filleule de Nathalie Bulcar-Grégoire.
Aviva ! T'es comme un vol qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups.
nous reprenons notre entretien avec les deux femmes du fil rouge du Midi Libre, Nathalie Bulcar-Grégoire et Béatrice Mortier. Alors, on a vu leur carrière et leur passion. On entrevoit comme ça leur passion pour mettre du sens de l'humain dans l'urbain. À présent, je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrées.
Alors, les occasions de se rencontrer, Nathalie, à mon sens, étaient nombreuses parce que, comme on l'exprimait tout à l'heure, c'est vrai que l'une comme l'autre, on a ce tropisme particulier pour la construction. Je dirais que c'est la personnalité de Béatrice qui m'a rapidement captée, parce que d'abord, c'est un compliment que je me permets de lui faire, d'abord c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu, parce qu'elle a une personnalité et dans un milieu
en plus,
très masculin, je pense qu'elle a trouvé sa place, qu'elle a su faire sa place, donc naturellement, c'est quelqu'un qu'on rencontre, et comme à côté de cela, c'est quelqu'un avec qui on a plaisir à partager un moment aussi, mais je dirais de façon naturelle, on a essayé de travailler ensemble. On peut se rencontrer sur des programmes immobiliers, puisque forcément ICAD est un constructeur, un promoteur incontournable. Nous accompagnons ces opérations de promotion immobilière et que naturellement, sur ce territoire qui est aussi riche en construction, les occasions de se croiser étaient forcément multiples.
Donc Béatrice, si je traduis, relations professionnelles, vous avez aimé l'une l'autre l'efficacité relative des deux et la façon de mettre un peu de cœur dans ce qu'on fait avec du sens.
Alors beaucoup de sens, moi c'est vrai quand j'ai rencontré Nathalie, on s'est rencontré sur un projet en particulier et un projet qui nous animait toutes les deux beaucoup et j'ai senti une écoute et une attention qu'on trouve rarement quand même chez les banquiers, il faut dire ce qui est.
Alors toutes les deux, vous êtes dans des domaines où on imagine dans l'imaginaire populaire des gens très froids, très techniques et très financiers. Et là, vous êtes en train de nous dire que toutes les deux, vous avez tout à fait une autre approche. Est-ce que c'est ce qui vous a un peu lié aussi ?
Je pense que oui. C'est vrai que c'est nos valeurs et notre attirance et notre passion pour notre métier qui nous a clairement liés. Mais on n'est pas dans des métiers forcément si froids que ça. En fait, c'est des images, je pense que...
Ce sont des images populaires.
Oui,
tout à fait. On vous voit comme ça, très loin des gens, très technique. Et c'est pour ça que là, c'est intéressant, parce que vous êtes complètement... Vous donnez vraiment la réalité du contre-exemple, vraiment. Hein. Et qu'est-ce qui est important pour vous, Nathalie Bulcar ?
Je vais rebondir sur les propos de Béatrice. Oui, effectivement, je voudrais qu'on chasse cette image du banquier froid qui ne voit que des chiffres. Enfin, c'est tout autre chose, notre métier. Et heureusement, d'ailleurs, parce que je ne le ferai pas avec autant de passion. Ce qui nous caractérise, justement, à Caisse d'Épargne, c'est que nous sommes une banque, j'ai l'habitude de dire, nous sommes une banque de territoire. Et on est là pour porter la dynamique de notre territoire. On est là pour le faire rayonner, notre territoire. Et donc, naturellement, la première valeur, et ça, on le porte, je pense, l'une et l'autre, c'est cette proximité que nous avons avec les acteurs qui composent notre territoire. Et on ne serait pas de bons banquiers si on n'avait pas cette capacité, justement, à bien en comprendre les enjeux de ce territoire et à pouvoir lui adresser, forcément, d'être en connexion étroite avec ceux qui font cette économie.
Avec vos clients, entre guillemets, absolument. Avec leurs limites et leurs potentiels et leurs aspirations et avec vous avez un devoir de conseil.
On a un devoir de conseil, on a un devoir de porter cette dynamique.
Oui.
Et comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est aussi de pouvoir accompagner les moments les plus difficiles aussi. Si, simplement, on n'est pas toujours qu'en phase de croissance, on n'est pas toujours qu'en phase de réussite. Donc c'est ça, la proximité avec un banquier, c'est de savoir être présent à tous les stades de la vie d'une entreprise et de la vie de nos clients, de façon générale.
Faire front finalement, faire face aux difficultés qui ne manquent pas d'arriver dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle, évidemment.
Tout à fait. Alors Béatrice, moi, c'est vrai que de mon côté, ce qui m'a beaucoup plu chez Nathalie, comme j'ai été moi-même à la tête de mon entreprise Ad Vitam qui a été revendue à ICAD, j'ai eu des relations parfois un peu houleuses avec les banquiers qui n'étaient pas toujours très proches de l'entrepreneur que j'ai été. Et c'est vrai que Nathalie, elle, a cette approche totalement différente de soutenir l'économie, de soutenir les entrepreneurs et de se rendre compte à quel point c'est difficile et à quel point justement le rôle du banquier est fondamental dans cet accompagnement.
On reste humain par... vraiment aspiration, mais on reste humain aussi par efficacité. Pour de l'efficacité. Parce que si on est loin du client, j'allais dire du patient, si on est loin du client et de son projet, c'est compliqué de l'aider vraiment.
Et par conviction, je serais tentée de dire aussi on est humain, parce que c'est ce qui nous caractérise, enfin je veux dire, au-delà de de toute forme de structure, de recherche, de rentabilité, etc. Enfin, il y a des hommes et des femmes qui composent cette société et que naturellement, c'est ce qui doit nous animer et c'est ce qui doit nécessairement prioriser dans nos métiers.
Bien sûr. Nathalie, c'est important pour vous, cette humanité et de la transmettre. Vous êtes maman, je crois. Mmh. C'est un point qu'on transmet, ça ? Ou je sais, par l'exemple, où on en parle ?
Ah, c'est forcément quelque chose qu'on transmet. Voilà. Alors, il y a un bagage familial, forcément, que l'on porte. Ce bagage qui peut être après plus ou moins lourd aussi en fonction d'un vécu. Mais naturellement, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est naturel. Et dans la mesure où c'est naturel, que c'est quelque chose qui vous vient spontanément, vous le transmettez nécessairement à vos enfants.
Bien sûr, bien sûr. Béatrice, vous êtes maman aussi. On transmet ça ?
On transmet par l'exemple, bien sûr, et puis on transmet par conviction et par partage aussi avec les enfants d'un certain nombre d'actions de valeurs au quotidien.
Donc, c'est totalement fondamental pour toutes les deux.
Totalement fondamental. C'est le sel de la vie.
Exactement. Quelle est l'autre valeur qui vous rapproche comme ça ? On en a vu deux déjà fondamentales. Hein, la passion pour ce qu'on fait, la passion, l'intérêt pour les gens avec qui on travaille, apporter un peu dans leur vie, un peu de plus dans leur vie quotidienne, développer le territoire. Vous êtes finalement deux actrices de ce développement. Il est important pour chacun. Et donc, est-ce que pour vous aussi, communiquer, avoir une action associative, est-ce que vous avez le temps d'abord d'avoir des actions associatives ?
Peu, mais un petit peu quand même, parce que c'est fondamental de donner de son temps.
On rend ce qu'on a reçu.
Exactement.
Donc ça, c'est important.
Il faut le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a un âge pour tout, hein, il y a un temps pour tout dans la vie, mais effectivement.
Est-ce que vous, vous avez le temps, Nathalie ?
Alors, le temps, je l'ai pris. On va dire que je l'ai pris à un moment donné de ma vie, parce que quand les enfants étaient petits, ils étaient notamment en crèche.
Oui.
Une crèche qui était une crèche familiale. Donc, ben, naturellement, je me suis engagée dans cette structure pour pouvoir apporter là aussi ma contribution. De par mon profil, ben, j'en ai pris simplement la comptabilité, la trésorerie. Voilà, c'est des choses faciles.
Juste ça.
Mais il faut le faire quand même. Ça fait partie des choses essentielles au bon fonctionnement.
Oui.
Voilà, exactement. Après, je dirais, mon engagement, ben, parce que je pense que c'est aussi ce qui nous caractérise dans nos valeurs, c'est ce niveau d'engagement.
Oui.
Je pense qu'il est très marqué. Chez l'autre.
Oui.
Et je pense que notre engagement, on n'a pas nécessairement, je vais peut-être vous surprendre en disant cela, mais besoin l'illustrer au travers d'une action au sein d'une structure associative, notre engagement, on le porte par notre job.
En soi.
Moi, je suis très fière d'être membre de directoire de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Pourquoi ? Parce que c'est une banque qui a son utilité.
Oui.
Et en fait, c'est peut-être pour ça que je suis aussi engagée, parce que j'ai la conviction de faire partie d'une entreprise utile. Alors certes, on n'est pas une entreprise à mission, on ne se décrète pas comme cela, mais on est une entreprise qui a une mission d'intérêt général. Et tout à l'heure, vous l'évoquiez avec le logement social. Donc voyez, je ne fais pas de bénévolat dans une association. Par contre, je suis présidente de ce qu'on appelle une ESH, une entreprise donc, du logement social, dans lequel je consacre de mon temps, et qui est une forme de bénévolat, entre guillemets, parce que j'en porte la présidence.
C'est important, c'est du temps, c'est de la stratégie.
Et c'est du temps, c'est de la conviction. Et en fait, voilà, cet engagement sociétal, pour moi, il se traduit au travers aussi de mes missions professionnelles et extra-professionnelles.
Oui. Comment réagissez-vous toutes les deux quand les gens disent, quand c'est un logement social, personne ne s'applique pour que ça soit joli, agréable, etc. Je sens que ça va vous énerver.
J'ai fait mouche. Ça n'a plus de sens. D'abord, le logement social aujourd'hui est intégré dans toutes les résidences. Donc,
absolument.
Il est traité de la même manière, il est partout. Il est intégré et Dieu merci, c'est
heureusement,
une très bonne chose.
Heureusement, c'est une bonne solution ça, hein, quand même.
D'intégrer c'est une très bonne solution.
Cette mixité comme ça.
Et puis les bailleurs sont très exigeants. Ils sont très exigeants parce qu'ils vont gérer sur le long terme. Et donc, c'est des clients qu'on a en face de nous qui sont très conscients de la nécessité d'avoir une longévité et d'avoir des bâtiments pérennes.
Oui.
Donc, on travaille beaucoup en amont avec eux. Et le niveau d'exigence, je peux vous promettre, en logement social est le même qu'en logement libre.
Donc ça, c'est important de rappeler ça maintenant.
J'adhère complètement aux propos de Béatrice. Hein. C'est tellement juste. Le bailleur social, son parc, il va garder très très longtemps. Ce qui veut dire que naturellement, il va investir de façon très régulière dans sa rénovation, dans son entretien.
Bien sûr.
Exactement, parce que ce patrimoine, il va le garder un grand nombre d'années. Donc, au contraire, je dirais avoir un bailleur social
dans une structure immobilière, c'est quelque chose de très positif parce que justement, il va enclencher naturellement et de façon régulière tous les travaux nécessaires pour que justement ce bien reste en excellent état.
Donc vous êtes en train de nous dire que c'est une garantie finalement d'excellence parce qu'ils font attention à la gestion. Effectivement, un bailleur social va faire attention à la gestion de son bien pendant des années et au bien-être des locataires aussi.
Et donc il va être exigeant à la conception.
Donc, pour nos auditeurs, nos auditrices qui ont comme ça des idées préconçues, c'est le moment de les corriger. On est rentré dans une ère de mixité avec des dirigeants au niveau de la promotion immobilière comme au niveau du financement, avec une exigence sociale, sociétale, de mixité sociale, etc. Donc, on est dans des contenus éthiques. Chers auditeurs, auditrices, nous arrivons au terme de cette émission. On a eu le plaisir de recevoir Nathalie Bulcar-Grégoire, la marraine de Béatrice Mortier, deux femmes du fil rouge du Midi Libre que vous avez découvert dans les colonnes du journal. À bientôt sur cette antenne.
Vous venez de découvrir deux femmes du fil rouge du Midi Libre. Elles ont partagé avec vous leur parcours d'exception.